Bonjour, chers amis. La Révolution française a initié, de façon violente, une sécularisation de la vie publique. Cela va avoir de grandes conséquences dans la société de notre pays. Le mouvement d'émancipation laïque voulu par la Révolution française sera contenu par Bonaparte. Celui-ci a deux raisons pour porter un coup d'arrêt à l'émancipation laïque favorisée par la Révolution française. D'abord, il estime qu'il faut une religion au peuple et que cette religion doit être dans la main du gouvernement. Ensuite, il a besoin du pape, même si celui-ci, en la personne de Pie VI, a condamné explicitement les droits de l'homme et la liberté de conscience, au motif qu'il constituait à ses yeux ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée. Pour Bonaparte, la solution est alors, en 1801, celle d'un concordat avec le pape qui redonne droit de cité à l'Église en faisant du catholicisme la religion de la majorité des Français. Et surtout, concordat qui érige les quatre principaux cultes du pays, catholiques, réformés, luthériens et judaïques, en service public, officiellement reconnus et rémunérés sur le budget de l'État. Et à ce concordat, Bonaparte ajoute une centaine d'articles organiques, non négociés avec le pape, qui organisent les cultes dans leurs moindres détails, et où se retrouvent pêle-mêle le catéchisme impérial, le calendrier chrétien et le protocole. Le concordat de 1801 ne disait mot des congrégations religieuses. Plusieurs se sont donc reconstituées ou formées sous le consulat, sans que soit abolie la législation révolutionnaire. Mais un décret napoléonien de 1809 fera une distinction entre les congrégations utiles à la société, telles par exemple que les frères des écoles chrétiennes pour l'enseignement ou les sœurs de Saint-Vincent de Paul pour les hôpitaux ou la bienfaisance, et les autres congrégations. Ce décret précise qu'aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial. Le gouvernement Combes en fera une stricte application en 1901. Enfin, en matière d'enseignement, Bonaparte, devenu empereur, constitue en 1806 un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire, regroupant à la fois des clercs, des religieux congréganistes et des laïcs. Seuls les séminaires restent placés sous l'autorité directe des évêques et échappent à ce système. C'était donc une suppression de la liberté d'enseignement, définie pourtant par la Constitution de l'an III. C'était aussi une manière bien napoléonienne d'endiguer les congrégations religieuses. Mais ce monopole de l'enseignement fit long feu. Les congrégations enseignantes, qui avaient été chassées ou dispersées par la Révolution, étaient progressivement revenues et, avec ou sans autorisation, avaient rouvert des établissements. Par la suite, les régimes politiques successifs favoriseront encore la restauration du clergé et des ordres religieux. Plus de 400 ordres sont créés en France au XIXe siècle, tout simplement parce qu'ils en ont besoin. En effet, qu'aurait été le XIXe siècle sans les religieuses dans les hôpitaux ou la bienfaisance, ou sans les jésuites, rétablis en 1814, sans les orientoriens ou les frères des écoles chrétiennes dans l'enseignement. Les pouvoirs publics s'emploient également à rétablir la liberté d'enseignement, mais par étapes. D'abord dans le primaire, c'est la loi Guizot de 1833, puis dans le secondaire, la loi Falloux de 1850, Et enfin, dans le supérieur, la loi Laboulaye de 1875. Trois lois qui permettront à l'Église catholique de reprendre et de conforter ses traditionnelles activités d'enseignement, tant par les congrégations religieuses que par le clergé séculier. Et tout ceci, évidemment, a pour effet de lier, voire de compromettre l'Église catholique avec les formes royales et impériales de gouvernement de la France, ce qui ne plaît pas du tout aux républicains. Et lorsqu'après 1870, la République cherche à s'installer en France, son premier objectif est alors d'en finir avec ce principe de catholicité, dont les tenants sont plutôt favorables à un roi, et de se débarrasser de l'influence de l'Église. Ce sera l'esprit républicain des années 1870 qui opérera un véritable durcissement. En avril 1871, quelques mois seulement après le désastre de Sedan et la fin du Second Empire, la Commune révolutionnaire de Paris prend un décret dont le contenu anticipe largement sur celui de la loi de 1905. Mais l'écrasement de cette Commune par Adolphe Thiers en empêche l'application. En 1872, Léon Gambetta précise alors la pensée des républicains en ces termes : Nous ne sommes pas ennemis de la religion, que nous voulons assurer, libre et inviolable. Mais nous voulons émanciper l'État et l'école de toute emprise cléricale. Et le 4 mai 1877, le même Léon Gambetta, du haut de la tribune de la Chambre des députés, s'écrit « Je ne fais que traduire les sentiments intimes du peuple de France en disant du cléricalisme ce qu'en disait un jour mon ami Peyra, le cléricalisme, voilà l'ennemi. » Les républicains déclarent donc ne pas être a priori contre la religion, mais il faut tout de même noter qu'en 1877 également, le Grand Orient de France renonce au déisme traditionnel de la franc-maçonnerie pour devenir athée. Avec la Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme, il se met alors à inspirer une politique anticatholique et même anti-religieuse, qui, de dispositions restrictives en mesures vexatoires, constituent autant d'atteintes au concordat de 1801, aux articles organiques et à diverses mesures prises par les régimes royaux ou impériaux précédents. Ce durcissement du pouvoir politique, qui veut revenir aux valeurs de la Révolution, va alors engendrer ce que l'on pourrait appeler les fondements de notre laïcité. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.